Alors là, je vous parlais d'une utopie qui est quand même quelque part réalisée. La langue de personne, et donc la langue de tout le monde, pour mieux communiquer et se comprendre. Si je vous dis utopie d'une langue qui existe déjà, fraternelle, universelle.
De l'espéranto.
Voilà, exactement. Donc l'espéranto, donc cette langue existe déjà, bien sûr. Elle est reconnue d'ailleurs par l'UNESCO. On la croyait morte, cela dit. Eh bien non, elle connaît même un renouveau grâce à Internet.
Et... Vraiment ?
Ah oui, vraiment. Il y a pas mal de cours d'apprentissage en ligne. Il y a des associations, ça c'est clair. Et il y a même une nouvelle génération, on peut dire même de web espérantistes. Alors l'espéranto a été inventé par le médecin polonais Zamenhof, le fameux docteur qui espère, langue d'union au-delà des nations, qui d'ailleurs a fait qu'affectionner des personnalités très très variées, pacifistes comme Gandhi ou encore Charlie Chaplin, langue dite construite, et ce à la fin des années 1870, alors qu'était d'autant plus justifiée dans un contexte de guerre. Aujourd'hui donc, les héritiers du docteur qui espère se sont regroupés dans de multiples associations assez militantes, et puis pas très facile à chiffrer d'ailleurs, parce que selon la police, il serait 3 millions sur la planète. Selon les organisateurs espérantistes, il serait 10 millions. Bon, il y a un petit écart de chiffres.
Et combien en France, à peu près?
On dit entre 100 000 et 200 000 en France. Bon, quels que soient les chiffres, c'est la seule langue internationale à fonctionner quand même dans 120 pays. Langue du voyage, notamment, très pratique face à l'hégémonie de l'anglais. Sachant que, il paraît, hein, moi j'ai pas essayé, mais que c'est une langue très facile à apprendre. Elle fait partie des langues dites transparentes, comme l'espagnol, l'italien, à consonance latine. On dit aussi que c'est une langue construite, selon la technique des Lego, la racine étant toujours la même, la grammaire plutôt simple, et il y a à peu près 900 mots. Bref, jusqu'au bout, c'est une langue non élitiste. Alors, bien sûr, au-delà de la langue, il y a toute une philosophie espérantiste, hein, des valeurs humanistes, qui sont revendiquées par des espérantophones qui militent pour qu'un jour, elle devienne langue européenne. Et là, pour le coup, d'ailleurs, on est vraiment dans l'utopie. Il faut savoir, d'ailleurs, qu'il y a eu une candidature... Europe, démocratie, espéranto. Oui, je sais, je vais faire court, Mathieu. Mais après, vous allez me reprocher que je parle trop vite. Bon, cela dit, et pour faire court, beaucoup quand même disent que, franchement, une langue commune, ce n'est pas forcément évident tant qu'il n'y a pas d'identité culturelle commune. Alors, parmi les petits jeunes, un certain Axel Rousseau, c'est un informaticien d'une trentaine d'années, ex-président de l'association Espéranto Jeunes. Alors lui, il est bilingue depuis 7 ans et il est bilingue comme son portable.
Saluton, mineniam auscultas mian respondilon, do bon volus indiami, ret messagion, dancon.
Axel Rousseau, bonjour.
Bonjour.
Est-ce que vous pouvez m'expliquer la différence entre espérantiste et espérantophone?
Alors, espérantiste, c'est quelqu'un qui fait connaître l'espéranto, mais sans forcément parler la langue. Et espérantophone, c'est quelqu'un qui parle l'espéranto sans forcément en faire la promotion.
Et vous alors, vous êtes dans quelle tribu?
Un peu les deux en fait, puisque je suis espérantophone et espérantiste.
Alors je crois que votre rencontre avec cette langue-là est venue par une femme, une jeune femme.
En fait, j'ai commencé l'espéranto en 99. Au bout de quelques mois d'apprentissage, puisque c'est une langue qui est très facile à apprendre, et j'ai rencontré une étudiante tchèque. Et cette étudiante ne parlait ni le français, ni l'anglais, ni aucune autre langue que j'avais en commun avec elle, à part l'espéranto. Et on a passé la soirée à parler de politique, de sa vision, de la chute du mur, comment elle vivait en République tchèque. On a parlé de cinéma, on a parlé de ses études, de mathématiques, de son père psychologue, et tout ça en espéranto.
Donc c'est pas une langue morte.
C'est loin d'être une langue morte et c'est une langue qui permet d'exprimer énormément de choses, de parler de sujets très divers. Je travaille dans l'informatique et il m'arrive d'échanger des messages très techniques avec des étrangers en espéranto.
Bon, en même temps, on a envie de se dire que l'espéranto pourrait être, pourquoi pas, un sujet qui intéresse des personnes plus âgées dans le cadre associatif et on ne voit pas forcément des jeunes se tourner vers cette langue-là.
L'utilité de l'espéranto, c'est de parler avec des étrangers, donc de faire des voyages. Et les gens qui ont le temps pour faire des voyages sont soit les étudiants, soit les retraités. Donc effectivement, on voit beaucoup de personnes âgées, mais il y a énormément de jeunes qui utilisent l'espéranto pour voyager dans des circuits alternatifs. C'est-à-dire, plutôt que d'aller à l'hôtel, ils se font héberger par des espérantophones.
Oui, il y a tout un réseau, en fait, finalement.
Donc il y a plus de 1200 adresses réparties dans le monde de gens qui acceptent d'héberger des espérantophones à la simple condition qu'ils parlent l'espéranto.
Axel Rousseau, là, je m'adresse plutôt à l'espéranto. Espérantophone, donc plus à celui qui milite aussi. On est dans l'utopie, j'allais dire, de la langue universelle, de la langue fraternelle. Autrement dit, si tout le monde parlait la même langue, bah, il y aurait pourquoi pas une paix espérantiste, tiens.
Se comprendre mieux, oui.
Oui, ça, clairement, mais je veux dire...
S'apprécier mieux, pas du tout. On voit les différents conflits qu'il y a dans le monde. Je pense en Irlande du Nord, où ils parlent la même langue. En Palestine, où les gens se comprennent très bien. Il n'y a pas besoin de se comprendre pour s'aimer. Enfin, c'est deux choses différentes. On l'a vu aussi en Yougoslavie, où avec la même langue, ils arrivent à se taper sur la tête.
Alors, qu'apporterait une langue au-delà des nations, pas uniquement nationales?
Justement, en fait, on remarque dans différents conflits que chacun essaye d'avoir une séparation culturelle. En Irlande du Nord, l'Irlande, enfin du Sud justement, essaye de se détacher de l'Irlande du Nord en faisant la promotion du gaélique contre l'impérialisme anglo-saxon. Et effectivement, dans le cadre d'un échange international, utiliser la langue de l'autre, c'est quelque part se soumettre à l'autre.
La dernière fois que vous êtes servi de l'espéranto, c'était quand?
En fait, je l'utilise tous les jours. Sur Internet, on trouve énormément de sites, des blogs, des listes de diffusion que je reçois en espéranto. Donc, c'est vraiment quelque chose que j'utilise au quotidien. Et c'est quelque chose d'assez important, en fait. On a l'espéranto comme une alternative à l'anglais, comme on peut avoir les logiciels libres, une alternative aux logiciels de Microsoft. Il y a beaucoup de courants alternatifs en ce moment, au niveau de la nourriture, au niveau de plein de choses, une façon différente de vivre. Bah, l'espéranto, c'est une façon différente de communiquer.
Et pour terminer, Axel, comment dit-on en espéranto? Un petit cours d'espéranto pour l'émission La tête au carré et vive les utopistes.
Malgranda curso por la auscultantoi de la elsendo La tête au carré, kai vivu la utopioi.
Merci, au revoir.
Au revoir. Gis.
Gis, c'est joli, non?
Pas mal.
Alors, pour plus d'informations, le site officiel de l'association Espéranto France, c'est esperanto-france.org.
Voilà, c'est voilà. En lien sur le site de La tête au carré, bien sûr. Merci, Laurence.